France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Quand vous regardez qu'il y a 100 ans, il n'y avait aucun pays avec les codes du travail. Et grâce à l'impulsion de l'OIT, aujourd'hui, dans tous les pays du monde, vous avez législation du travail.
Est-ce que l'OIT doit être une institution qui se soucie du devenir des entreprises ou du devenir des droits sociaux, comme la mission historique lui est confiée par les États?
L'OIT répond au problème d'une génération qui va disparaître. Il faut passer la main à la nouvelle génération. Et pour le moment, elle n'est même pas écoutée.
Elle est née au lendemain de la Grande Guerre, sur l'idée qu'une paix universelle et durable ne peut se bâtir que sur la base de la justice sociale. 100 ans plus tard, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, compte 187 pays membres et poursuit sa mission sous l'égide des Nations Unies. Elle a gardé sa structure tripartite, gouvernement, employeurs et syndicats y sont représentés, et elle continue de produire des normes et d'émettre des recommandations dans le but d'améliorer le sort des travailleurs dans le monde. L'OIT lutte contre le travail forcé et le travail des enfants, contre les discriminations au travail. Elle défend les libertés syndicales et le droit à la négociation collective. Mais, dépourvue de moyens coercitifs, elle se contente de pointer du doigt les pays fautifs. Alors que de nouveaux défis, technologiques, migratoires et environnementaux, viennent bousculer les modèles établis, faisant émerger de nouvelles formes de travail, l'OIT a-t-elle encore véritablement un rôle à jouer? Peut-elle encore œuvrer pour que l'humain soit remis au cœur de l'économie? L'OIT, 100 ans et maintenant, c'est un reportage signé Marie Viennot. Dans Grand Reportage, le magazine de la rédaction, nous recevons Marieke Louis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences à Sciences Po Grenoble, spécialiste des organisations internationales et du syndicalisme ouvrier et patronal. Et puis Cyril Combe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du Bureau international du travail en France. Est-ce que vous pouvez très rapidement nous expliquer ce qui distingue le BIT de l'OIT?
Alors c'est une question qu'on se pose souvent en France ou dans les pays francophones parce que le sigle est différent, mais il n'y a qu'en français qu'il est différent. Donc le Bureau international du travail, c'est le secrétariat permanent de l'organisation, c'est son bras armé, je dirais, ce sont les équipes, les fonctionnaires qui font vivre au quotidien l'organisation qui, elle, rassemble l'ensemble de ses membres tripartite, l'ensemble de ces organes de gouvernance. Nous sommes gouvernés par un conseil d'administration, par une conférence internationale du travail qui est en train de s'achever en ce moment même à Genève à l'heure où nous parlons. Et donc ce sont des membres tripartites, c'est ça qui est important aussi à retenir, c'est-à-dire des représentants des gouvernements, des travailleurs et des employeurs.
Alors Marie Viennot est à mes côtés. Marie, vous avez justement suivi cette 108e conférence internationale du travail qui se déroulait donc à Genève en Suisse depuis le 10 juin. Elle a réuni plus de 6000 délégués du monde entier. Quelle était la teneur de leurs échanges?
Alors oui, cette conférence est un peu le moment législatif en fait de l'Organisation internationale du travail, et les délégués qui viennent à la conférence, ils sont par pays 4 représentants des gouvernements, 2 des employeurs et 2 des travailleurs, participent à de très nombreuses commissions. Alors l'une détermine le budget, une autre examine l'application des normes et conventions dans les pays de l'OIT. 24 pays sont convoqués. C'est la seule commission publique qu'en tant que média on peut suivre. Cette année, il y avait donc une déclaration sur le centenaire, la mise en discussion d'une convention, la 190e, sur la violence et le harcèlement au travail qui a été adoptée. Et puis, en parallèle, il y a au Palais des Nations de l'ONU les discours à la tribune qui eux aussi sont publics. Chefs d'État, syndicalistes, représentants des employeurs, c'est en continu quasiment les discours pendant les 10 jours de conférence, ce qui fait des dizaines et des dizaines d'interventions. Donc c'est là qu'on fait les grandes déclarations, mais ce n'est pas du tout le lieu de l'action.
Alors votre reportage va donc nous emmener au siège de l'OIT, Marie, à Genève.
Oui, et d'abord, on va aller, on assiste à des extraits d'une pièce de théâtre qui parle d'Albert Thomas. Albert Thomas, ce fut le premier secrétaire général du BIT. C'est un socialiste français. Il y a été de 1920 à sa mort. Et donc, cette pièce s'appelle Albert Thomas Voyage.
Un spectacle écrit à l'occasion du centenaire de l'OIT par Frédéric Desbordes, que l'on entend tout de suite.
La start-up BIT, parce que c'était vraiment une start-up, hein. Est né sous l'impulsion d'un homme infatigable, Albert Thomas. 4 ou 5 heures de sommeil par nuit, et tous les collaborateurs de la première heure suivent le train. On n'est pas à 8 heures de travail, hein. C'est pour ça que je parle de start-up. Et Albert Thomas voyage pour rencontrer, comprendre, motiver, initier, faire ratifier les premières conventions. Ce soir, vous allez vivre des moments de son voyage en Orient, du 7 novembre 1928 à Moscou, au 22 décembre 1928 à Tokyo.
Pièce en 2 actes, écrite à partir des carnets d'Albert Thomas. Le public est composé en majorité de fonctionnaires du BIT et de quelques délégués. attendu qu'une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale, dit la Constitution de l'OIT, il faut...
Premièrement, une législation nationale, pour être viable, doit être adaptée aux conditions du pays. Deuxièmement, il n'y a pas de législation effective si on ne prévoit pas des pénalités et des sanctions. Troisièmement, il n'y a pas d'application sans inspection. Quatrièmement, il faut une organisation ouvrière professionnelle solide, une classe ouvrière éduquée et consciente de ses intérêts corporatifs. Merci, Monsieur Thomas.
Notre pays est un pays industriel arriéré. Il faut en tenir compte si l'on veut réglementer la durée du travail. 8 heures seraient insuffisantes pour la production nationale, vu le mauvais rendement des ouvriers.
Les ouvriers chinois sont les plus malheureux du monde. Ils subissent l'oppression non seulement du capitalisme chinois, mais du capitalisme étranger. Ils travaillent 14 heures par jour et leur salaire suffit seulement pour une personne.
Mais si vous avez des informations, donnez-les-moi. Enfin, vous me demandez de supprimer la misère du peuple chinois. Je ne suis pas Dieu.
J'aime beaucoup le théâtre et j'aime beaucoup mon travail. Et là, ce soir, les deux peuvent... J'ai pu vivre les deux ensemble et demain c'est la conférence internationale du travail qui démarre et donc ça nous donne vraiment une perspective quand même de vivre, qu'on vit quelque chose d'historique.
Même si l'essentiel se passe dans les années 30, est-ce qu'il y a des choses en fait qui sont très ressemblantes avec aujourd'hui ?
Vous savez, justement, avec mes collègues fonctionnaires du Bureau international du travail, on a découvert et vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont pareilles. Comment les gouvernements réagissent, comment les syndicats luttent, comment sont les conditions de travail. Donc c'est ça qui est incroyable, qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont pareils il y a 50 ans ou il y a 100 ans. Peut-être qu'il y a des petites différences, mais on voit que les problèmes politiques, économiques et sociaux sont toujours là. Et c'est pour cette raison, j'espère aussi, que le Bureau international du travail aura sa vocation à continuer son œuvre. Et quand vous regardez qu'il y a 100 ans, il n'y avait aucun pays avec les codes du travail. Il n'y avait aucun pays où il y avait la limitation du temps de travail à 8 heures, quand il n'y avait vraiment rien du tout. Et grâce à l'impulsion de l'OIT et du BIT, aujourd'hui, dans tous les pays du monde, vous avez la législation du travail, vous avez les limitations du temps de travail, vous avez l'interdiction du travail des enfants, vous avez beaucoup de choses pour les femmes. Là, on voit quand même que parfois, si on regarde les perspectives, il y a des avancées, donc tout n'est pas aussi pessimiste et sans espoir.
La conférence internationale du travail vient de commencer. Nous sommes au Palais des Nations, au siège de l'ONU à Genève. Bernard Thibault, l'ancien secrétaire général de la CGT, est au conseil d'administration de l'OIT. Comme représentant des travailleuses et travailleurs français. Pendant 15 jours, il va siéger pour amender les textes qui sont sur la table. Les conflits avec les employeurs, au niveau mondial, sont comme ceux qu'il a connus en France.
On retrouve des polémiques et des tensions qu'on peut retrouver à l'échelle d'un pays dès lors qu'on parle du droit des salariés. C'est pas très très différent. L'année dernière, dans la discussion concernant la future norme pour lutter contre les violences au milieu de travail, dont les violences à caractère sexuel, j'espère qu'on va aboutir cette année, mais rien n'est gagné. Les employeurs ont utilisé tous les artifices pour faire éclater la discussion, renvoyer des pays de la discussion, bref, faire en sorte qu'on ne produise pas de texte. Ils ont été, par exemple, jusqu'à revendiquer qu'au titre des cas de violence dans l'entreprise recensés, on évoque les grèves. Au titre des employeurs, l'exercice de la grève est une violence à l'égard de l'employeur, alors qu'on est sur un droit fondamental selon les normes de l'Organisation internationale du travail. Donc on voit bien qu'on ne parle pas de la même chose. Mais c'est une manière d'asphyxier le débat pour produire une norme. C'est une technique d'asphyxie du travail normatif. Donc les polémiques, oui, elles sont nombreuses. Est-ce que l'OIT doit être une institution qui se soucie du devenir des entreprises ou du devenir des droits sociaux, comme la mission historique lui est confiée par les États?
Il y a un risque de glissement, là.
Oui, il y a un risque de glissement, mais vous savez, on a les mêmes approches au plan national. Lorsque j'entends des représentants du MEDEF dire que le Code du travail en France doit tenir compte des besoins des entreprises, c'est exactement la même approche que nous avons au plan mondial. L'économie repose aujourd'hui sur le facteur du moins-disant social, comme un des ressorts de son propre développement. Mon arrivée ici, à Genève, à l'Organisation internationale du travail, m'a fait prendre conscience de l'ampleur des dégâts, je dirais. Une telle négation des droits les plus fondamentaux, ça j'avoue que je n'en avais pas pris la mesure avant d'en arriver à ce mandat, tout comme la répression dont sont victimes certains syndicalistes dans le monde. On a des pays dont aujourd'hui la question à l'ordre du jour, c'est des délibérations pour contraindre des États à ouvrir des enquêtes sur les assassinats de syndicalistes qui se montent parfois à plusieurs dizaines dans certains pays en 5 années, sans qu'aucune enquête ne soit... Certains ouvriers, certains travailleurs se battent pour améliorer leurs conditions au péril de leur vie. C'est aussi ça la réalité. Et là je pense vraiment que le commerce international ne peut pas fermer les yeux sur ces réalités. On ne peut pas continuer à commercer comme si de rien n'était avec des pays où ces droits les plus élémentaires sont bafoués, piétinés, où la vie humaine de travailleurs est piétinée.
Bernard Thibault, vous évoquez aussi la possibilité pour l'OIT d'être une forme d'agence qui note les États. Et en leur donnant une note sociale, comment ça fonctionnerait?
Moi, je serais même pour une notation des produits, c'est-à-dire faire en sorte que tous les produits commercés dans le monde se voient attribuer un label de l'OIT, permettant à tout consommateur, où qu'il se situe, d'avoir une idée des conditions sociales dans lesquelles un produit a été mis au point, fabriqué, voire transporté, et mis sur le réseau commercial. Plutôt que d'avoir des entreprises qui cherchent à réagir en s'auto-labellisant sur leur bonne conduite, certains ont des chartes, et c'est plutôt une bonne chose, mais s'auto-notent en quelque sorte. Qui d'autre que l'Organisation internationale du travail pourrait avoir cette légitimité à délivrer un label dont il faudrait naturellement définir les contenus, les ressorts, pour apprécier si un produit est conçu sur un standard social international, si ce n'est incontestable, en tout cas en progrès.
Vous l'avez proposé déjà ?
Non, là, je ne l'ai pas proposé. Je sais que c'est une proposition dont certains vont considérer, ils ont après tout tout à fait le droit de le considérer ainsi, comme tout à fait utopique. Mais je pense qu'on ne pourra pas, chez certains de nos interlocuteurs, revendiquer systématiquement la globalisation sur le plan financier, sur le plan commercial, sur le plan de la mobilité des individus, etc. Et refuser que sur le plan social, on aille davantage sur des références aussi mondiales.
Pendant la conférence, les seules réunions publiques ont lieu au siège du BIT. On y examine le cas des pays qui n'ont pas rempli leurs obligations. Car oui, il y a des obligations à respecter quand on devient membre de l'OIT. La première, c'est de faire un rapport sur l'état de sa législation sociale en lien avec les 189 conventions existantes, même si on ne les a pas ratifiées. Ce matin, 70 pays sont appelés à dire pourquoi ils n'en voient rien. Mais la majorité ne se présente même pas, notamment les Bahamas, les îles Marshall, le Gabon, Malte. Derrière la salle d'audience, en tunique crème, un homme a installé un bureau éphémère. Il aide des syndicalistes éthiopiens qui prendront la parole cet après-midi. Un par un seront appelés, dès 15h, les gouvernements de 24 pays qui ne respectent pas les droits fondamentaux. Liberté d'association, élimination du travail forcé et des discriminations, abolition du travail des enfants.
Je m'appelle Akator Joël Odigier, je travaille pour l'Organisation régionale africaine de la Confédération syndicale internationale. La commission sur l'application des normes est l'une des plus importantes de l'Organisation internationale du travail. C'est un peu comme un tribunal du travail. On est là pour constater la façon dont les gouvernements ont mis en œuvre et appliqué les conventions. À cette conférence, on va discuter de 24 pays qui posent problème. 6 d'entre eux sont en Afrique. L'Éthiopie, la Libye, l'Algérie, l'Égypte, le Cap-Vert et le Zimbabwe. L'idée, c'est que les gouvernements de ces pays répondent aux observations faites par les représentants des salariés et des employeurs.
Mais s'ils ne viennent pas,
c'est leur droit. Ils peuvent aussi choisir de ne rien dire. L'OIT n'a pas d'armée et pas de troupes.
Une armée ?
Oui, une armée pour faire appliquer ces normes. C'est une organisation qui n'impose pas. Elle tente de persuader. C'est du soft power. Les progrès sont minimes, mais ils sont réels. Il y a eu beaucoup d'avancées sur le travail des enfants, par exemple. Aussi, pour le travail forcé et les formes modernes d'esclavage. Je peux donner la Mauritanie comme exemple. Peu à peu, le gouvernement est passé du déni à la mise en place de législations, d'institutions. Il commence même à y avoir des poursuites et des condamnations. Donc on avance. En 2011, on s'est mis d'accord sur une convention pour protéger les employés à domicile. Cette année, ce sera, j'espère, un standard contre la violence et le harcèlement au travail. Sans l'OIT, les gilets jaunes auraient été une blague, parce qu'il y aurait des protestations de gilets jaunes dans le monde entier, chaque jour, des gilets jaunes partout. Grâce à cette institution, vous avez la possibilité de parler, d'exprimer votre mécontentement. Il y a l'espoir de trouver une solution, une amélioration.
Mais n'est-ce pas aussi une façon de contenir les révoltes alors que les problèmes demeurent ?
Les problèmes seront toujours là. C'est comme une guerre, une vraie guerre. Les gens se battent, mais à un moment, ils se retrouvent à la même table. L'OIT ne règle pas les problèmes. Pour les syndicats, c'est un autre terrain de lutte. Et ça n'empêche pas de prendre les rues.
Au café des délégués qui donne sur le parc qui entoure l'immeuble du BIT se retrouvent les habitués. Les délégués plus timides regardent les œuvres artisanales, des dons, du monde entier. La moquette est moutarde, les murs en béton gris. Deux syndicalistes ukrainiens me disent leur déception. Ils étaient impatients de dire au monde, dans l'enceinte de l'OIT, que depuis 2015, les salaires des mineurs ne sont plus versés. Mais l'Ukraine n'est pas dans la liste des 24 pays. Alors, ils prendront la parole sur la Turquie pour dire leur solidarité avec les syndicalistes licenciés. Cette année, on trouve aussi le Brésil dans la liste des 24.
Bonjour monsieur, vous parlez français ?
Un peu, oui.
Je vous ai entendu dire « Brazil is a headache ». Qu'est-ce qui se passe avec le Brésil en ce moment ?
Oui, depuis le changement de gouvernement au Brésil, il y a un nouveau gouvernement qui est arrivé, qui mène une tout à fait autre politique que le gouvernement précédent, de Dilma Rousseff ou de Lula. Et donc, il y a des relations sociales qui sont vraiment sous pression. Et donc, c'est pour ça que je dis le cas du Brésil, c'est un cas de mal de tête, parce que oui, ça affecte tout le monde. Maintenant, ce que au niveau de l'OIT et au niveau de la commission d'application des normes, nous avons une autorité morale, si vous voulez, mais nous n'avons pas une capacité pénale. Nous ne pouvons pas dire on vous condamne à autant de peine ni d'amende. Donc ce que nous pouvons faire ici, c'est essayer d'avoir une expression consensuelle sur le cas du Brésil, mais le consensus doit venir des employeurs et des travailleurs. Et donc malheureusement, je sais déjà à l'heure actuelle que les employeurs ne vont pas vouloir aller dans une expression consensuelle qui condamnera ou qui dit quoi que ce soit envers le gouvernement de façon négative. Donc c'est un peu une discussion pour avoir la discussion, mais je crains un peu en vain. Et parfois il y a même une régression quand on voit le nombre de pays qui n'ont pas répondu pour l'une ou l'autre convention. Ce nombre devient beaucoup trop important.
Vous regardez votre montre, là, parce qu'il y a une session assez importante qui commence.
Et je dois présider. Marek Leemans. Je suis président de la CSC en Belgique et je suis porte-parole du groupe des travailleurs dans la commission d'application des normes.
Qui commence maintenant, là.
Qui commence maintenant.
Ok, merci. Voilà.
Merci beaucoup. Hein.
L'Organisation internationale du travail a une langue, une bouche, mais pas de dents. Du temps d'Albert Thomas, les pays craignaient la popularité des idées communistes. Ils ont accordé des droits sociaux. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont adopté la Déclaration de Philadelphie. Article 1, le travail n'est pas une marchandise. Puis, après la décolonisation, les membres de l'OIT ont doublé. Les droits sociaux sont devenus un levier de compétitivité assumé. L'OIT n'a rien pu empêcher, mais elle n'y est pour rien, explique Sandrine Cotte, professeure d'histoire à l'Université de Genève.
Une organisation internationale, elle n'est pas souveraine. Elle dépend d'une part de ses mandants, donc des gouvernements, puisque c'est eux qui payent, hein, qui financent quand même. N'oublions pas, par exemple, que les États-Unis financent à 25% l'organisation, puisque c'est en fonction du PIB des différents pays.
C'est pour ça qu'on ne leur dit pas grand-chose quand ils ne ratifient pas des conventions.
Voilà, parce qu'ils ont ratifié que 14 conventions. Hein. C'est un des pays qui a ratifié le moins de conventions de l'organisation. La Chine en a quand même ratifié 27, c'est-à-dire quand même plus que les États-Unis. L'OIT, ce qu'elle apporte, c'est la voie du dialogue social et des travailleurs. Donc, en ce sens, évidemment, elle est très importante. Mais elle n'est pas en position de force. Il faut quand même le reconnaître, c'est une organisation qui est en position de faiblesse. Elle est en position de faiblesse depuis les années 80 de manière très puissante, je dirais même depuis les années 70. Et le fait que ce soit d'autres organisations qui marchent sur ces plates-bandes, c'est aussi parce que ces autres organisations, elles proposent des solutions qui plaisent plus aux élites nationales, aux patronats, etc. Et ça, ça s'est passé de manière extrêmement évidente à partir du moment où les pays du Sud ont demandé internationalement en 1974, un nouvel ordre économique international qui a été voté à l'ONU, où il disait droit au développement, droit à la nationalisation pour être souverain sur nos propres ressources, contrôle des multinationales, etc. Bon, ça, c'était d'une certaine manière une régulation sociale de la globalisation. C'était ça, c'était de la répartition au niveau global, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, l'Organisation internationale du travail s'est saisie, en fait, de cette revendication et a fait un grand symposium en 1976 autour de ces choses-là et a essayé de voir comment, précisément, on pouvait accompagner socialement ces revendications de nouvel ordre économique international. La réponse des pays du Nord, ça a été, peut-être, pourquoi pas, etc. Et puis toc, en fait, ils sont allés faire leurs affaires dans leur coin. Donc, l'Europe, la Banque mondiale, l'OCDE, le G7, oui, là, d'accord, on parle entre soi.
À 20 minutes à pied de l'Organisation internationale du travail, en descendant vers le lac, on tombe sur l'OMC. Et le bâtiment de l'OMC était avant le bâtiment de l'Organisation internationale du travail. J'ai rendez-vous avec Gabriel Marceau qui travaille ici, qui est aussi professeur de droit à l'Université de Genève. Et donc on va regarder avec elle quels sont les restes de l'Organisation internationale du travail au sein des bâtiments de l'OMC. Et il y en a beaucoup.
Alors, la fresque, elle est là. On est dans le hall d'entrée principale de l'OMC. Et sur le mur, il y a cette vieille fresque qui date de l'époque du BIT. Si je lis en français, attendu qu'il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l'injustice, la misère et la
privation,
ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l'harmonie universelle sont mises en danger. Il est attendu que... Alors là, on parle plus bas, la réglementation des heures du travail, la main-d'œuvre et tout ça. C'est ici que ça a commencé, ces discussions fondamentales. À ma gauche, si on monte un peu, juste pour donner un autre exemple de l'importance de l'OIT dans les murs de l'OMC, vous avez ce dessin ou cette peinture sur la dignité du travail.
L'entretien aura lieu dans ce qui fut le bureau du premier directeur général Albert Thomas. Mur en bois foncé, voûte peinte, un piano à queue, c'est aujourd'hui la salle de musique de l'OMC.
Le commerce n'est pas plus important que les droits de l'homme ou que les normes du travail.
C'est pas le sentiment qu'on a.
C'est pas le sentiment, c'est souvent que les gouvernements, faute d'agir, il n'y a pas eu à date un pays qui a restreint des importations pour des raisons de travail. Alors oui, c'est vrai que le traité de l'OMC n'a pas de clause sociale, mais le traité de l'OMC a une disposition, on appelle l'article 20, qui liste justement des politiques qu'un pays peut invoquer, politiques qui vont primer sur les règles du commerce. Alors, la moralité publique, la protection de la santé, de l'environnement. Alors, quand un pays invoque cette politique et démontre qu'il fait les choses pour le respect de cette politique, il est autorisé à restreindre le commerce, pour autant qu'il soit cohérent. Ce qui se passe très souvent, un pays refuse une importation, comme la Thaïlande l'avait fait, refuse les cigarettes des États-Unis, en disant que c'est mauvais pour la santé, mais ils acceptent des cigarettes de l'Argentine, et ils subventionnent leurs producteurs de cigarettes. Alors le système leur dit, écoutez, vous avez le droit de refuser les cigarettes, mais soyez cohérents. Et les pays souvent tombent au niveau de la cohérence, plus que du concept.
Admettons, prends un exemple imaginaire, l'Union européenne dit non, je n'importe plus de choses de la Chine parce que vous ne respectez pas les libertés syndicales, mais à ce moment-là, il faudrait qu'ils n'importent pas les produits de tous les pays dans lesquels il y a un problème avec les libertés syndicales. C'est ça la cohérence ?
C'est à peu près ça la cohérence. Là, c'est simplifié, mais il faudrait bien aussi faire un lien entre les marchandises et leur origine et le lien avec ce qui se passe en Chine ou pas. Alors ça devient très exigeant. Mais la cohérence, c'est ça.
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, cher Guy Ryder, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres,
острые социальные экономические проблемы участников МОТ.
Cette année, centenaire oblige, les chefs d'État sont venus en nombre à la conférence de l'OIT, essentielle OIT, alors que le multilatéralisme est attaqué, indispensable OIT, quand l'injustice sociale nourrit les extrêmes.
Je crois que la crise que nous vivons peut conduire à la guerre et à la désagrégation des démocraties. Notre responsabilité collective, c'est de remettre en effet l'homme au cœur. L'humanité au cœur. On ne peut pas continuer à dire ce que je viens de dire à l'OIT et continuer à dire quand on est à l'OMC, c'est formidable le commerce, il faut négocier des accords avec tout le monde, quelle que soit leur sensibilité, sociale ou environnementale. Et vive le dumping, ça ira mieux, ça enrichit tout le monde.
Emmanuel Macron veut que les organisations internationales se coordonnent pour mieux intégrer les normes sociales dans les accords de commerce. L'Union européenne le fait déjà. Depuis 10 ans que l'OMC est en crise, il y a des clauses sociales dans de nombreux accords bilatéraux. Mais leur non-respect ne vaut pas action, encore moins sanctions commerciales. Peut-on réguler sans contraindre ? Alain Supiot, juriste et membre de la Commission sur l'avenir du travail créée par l'OIT pour le centenaire, a une idée pour que l'Organisation internationale du travail monte en grade. Comme l'OMC, l'OIT pourrait avoir un tribunal. Voilà comment ça marcherait.
Si devant la juridiction de l'Organisation mondiale du commerce, un État défend une mesure de protection par le fait que l'autre État concerné enfreindrait des normes sociales. Ce qui serait cohérent, c'est que l'OMC dise « bon, ça pose une question préalable, je la transmets à l'OIT, qui est la seule instance légitime pour interpréter les normes sociales, et je trancherai le litige commercial en fonction de la réponse que m'aura fait l'OIT ». Parce qu'aujourd'hui, l'OIT démissionnant de son rôle, cette fonction de juge d'interprétation des normes sociales, elle va forcément échoir à d'autres.
On appelle ça un juge ?
Oui, la Constitution parle de créer un tribunal. C'est le mot tribunal. L'un des risques auxquels nous faisons face aujourd'hui, c'est celui d'une dissémination de clauses sociales qui seraient imposées par les pays les plus puissants aux pays les plus faibles, alors qu'on peut penser que dans un cadre multilatéral, on tient compte de diversité de situations économiques. Et puis aussi le fait que la fonction de juge, de tiers impartial, sans laquelle il n'y a plus d'ordre juridique, soit elle-même confiée à un marché de l'arbitrage. Et les arbitres, c'est un marché d'arbitres qui se font payer des sommes considérables et auxquelles les faibles et les impécunieux n'ont pas accès. La tentation, je crois, pour l'avenir de l'OIT, c'est de se laisser aller à être une agence de moyens au service de ce qu'on appelle les objectifs du développement durable, qui ne sont rien d'autre que la projection à l'échelle du monde de la gouvernance par les nombres qu'on peut voir dans les entreprises, en se disant ben, on aura des objectifs, des indicateurs, et on n'a pas à parler de règles contraignantes.
Ça aurait pu ressembler à quoi, cette déclaration que l'OIT aurait faite et qui aurait été à la hauteur des enjeux que vous décrivez ?
Ce pourquoi je plaidais, sans avoir été entendu, mais je crois que l'idée fera nécessairement son chemin, c'est celle d'une déclaration des responsabilités. Si vous voulez, après la Seconde Guerre mondiale, on a raisonné en termes de droits. On distribue des droits aux êtres humains comme on distribuerait des revolvers et on dit ensuite ben, que le meilleur gagne. Mais la distribution de droits n'a de sens qu'au regard de distribution de responsabilités. Or, l'un des traits caractéristiques de l'organisation contemporaine de l'économie, c'est qu'elle permet de dissocier les lieux d'exercice du pouvoir des points d'imputation de la responsabilité. C'est très visible dans les chaînes de production, où on va dire que c'est le petit paysan intégré qui doit répondre des conséquences de la vache folle, alors que la nourriture, elle a été conçue par des firmes agroalimentaires sur lesquelles il n'a pas de prise. Donc il y a ce problème de reconnexion. Donc nous avons besoin d'un droit des responsabilités qui rende sa cohérence au système international en distribuant les responsabilités entre les organisations internationales, les multinationales, qui sont des acteurs économiques qui maintenant peuvent s'émanciper des États, en tout cas des États les moins puissants, à l'exception de l'Empire américain, et puis des États eux-mêmes. On a ces trois acteurs. Donc l'OIT pourrait être cette espèce d'agora, de forum, où les multinationales qui sont sincèrement soucieuses de jouer un rôle positif à la fois sur les plans de la responsabilité sociale et environnementale puissent échanger leurs expériences, prendre des engagements sous l'égide d'une organisation qui en est garante, Et à ce moment-là, on pourra dire qu'elles sont sérieusement responsables s'il y a un garant des engagements qu'elles prennent. Tant qu'il n'y a pas de garant, vous pouvez toujours dire tout ce que vous voulez. On n'est pas vraiment dans de la responsabilité. Vous voyez, ça, tout ça, ce sont des opportunités pour l'OIT, me semble-t-il. Mais ça supposerait une détermination politique que peut-être, de façon constitutive, elle est devenue incapable d'avoir.
Occasion manquée. La prédéclaration du centenaire n'a pas retenu l'idée d'un tribunal de l'OIT, encore moins d'une déclaration des responsabilités. Le débat n'aura même pas eu lieu. La schizophrénie juridique reste non résolue et le droit mou. Les multinationales continueront à être invitées à respecter la législation nationale du pays où elles opèrent. Comme le dit la 5e édition de la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale. Oui, 5e édition, la première date de 1976, il y a 43 ans. Retour au siège 70 du Bureau international du travail où depuis 2012, il y a un département entreprise. C'est un programme opérationnel. Les objectifs sont consignés par indicateurs dans un document de 80 pages que décrit Emmanuel Julien, le directeur adjoint du département. Il commence par un exemple.
On a aidé les horticulteurs du Sri Lanka à s'organiser en secteur, donc en organisation professionnelle, pour former toute la chaîne de production des fleurs au Sri Lanka, de façon à lui permettre d'accéder aux exportations, à améliorer leur qualité. Donc là, ça a été du renforcement de capacité plus. Donc vous avez ce programme et budget qui fixe, par exemple, pour mon département. Donc pour la promotion des entreprises durables, on a trois indicateurs qui sont en fait des sous-programmes. Hein. Et en face de chaque indicateur, le conseil d'administration nous attribue un certain nombre d'objectifs. Par exemple, pour l'indicateur 4.1,
Nombre d'États membres qui ont élaboré ou adopté des réformes relatives à l'environnement de l'entreprise qui soient de nature à instaurer un environnement favorable aux entreprises durables.
Voilà, donc ça, c'est tout ce qui peut permettre à créer et à développer des entreprises. Hein, voilà. On nous a affecté 24 objectifs, avec même la répartition par région.
12 en Afrique, 2 en Amérique, 3 dans les États arabes, 6 en Asie-Pacifique, 1 en Europe-Asie centrale. Voilà.
Et à la fin de la période, on doit être capable de dire, voilà, on a atteint cet objectif. Alors là, je peux vous dire, par exemple, que là, on est en dessous de l'objectif sur le 4.1. Mmh. On n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce que faire une évaluation de la régulation nationale, c'est-à-dire la législation, les règlements, les conventions collectives, voir là-dedans ce qui empêche la création ou la croissance des entreprises, rédiger le rapport, le transmettre aux autorités publiques, obtenir des autorités publiques qu'elles engagent un processus parlementaire et que les parlements votent des lois qui permettent de remplir cet objectif, c'est un processus long. Voilà. Parce qu'il y a aussi souvent des difficultés quand il y a des changements de gouvernement. Par exemple, vous avez un changement de gouvernement, comme ce type d'action repose énormément sur une pression de la puissance publique ou sur l'assentiment des parlementaires, très rapidement, vous perdez le contrôle de votre programme. Il n'est plus dans vos mains. Vous continuez de promouvoir les objectifs qu'on vous a assignés, mais vous n'avez pas le contrôle de cette situation.
Que va dire la déclaration du centenaire ? À ce moment-là, au Palais des Nations, les délégués négocient, débattent au sein de leur groupe, renégocient, redébattent. Anne Vaucher, du MEDEF, porte la voix des employeurs français.
Ce qui nous paraît important, c'est que l'OIT devienne une organisation qui accompagne les transformations du monde du travail, par exemple, qu'elle soit plus à même d'apporter une expertise sur les domaines des compétences, par exemple.
Dans la déclaration de l'OIT, dans sa création, il est dit que la non-adoption par un État quelconque d'un régime de travail réellement humain fait obstacle aux autres nations désireuses d'améliorer le sort dans leur propre pays. On rejoint l'idée que vous défendez souvent du level playing field, c'est-à-dire que toutes les entreprises soient soumises à la même enseigne. Donc est-ce que vous, dans vos relations avec les autres employeurs des autres pays, il y a aussi finalement des fois des tensions, parce que le fait que leurs États n'appliquent pas certaines conventions ou normes sociales fait que c'est désavantageux pour les entreprises françaises?
Non, je ne peux pas dire qu'il y ait des tensions dans le groupe, à l'intérieur du groupe employeur. Je dois même reconnaître qu'on est le groupe sûrement le plus soudé. Parce que ce qui nous soude, c'est que finalement, pour avancer, les entreprises ont besoin des mêmes conditions de départ. Elles ont besoin de politiques économiques favorables, de politiques fiscales. Elles ont besoin de pouvoir développer de l'innovation et d'avoir aussi des politiques sociales, bien sûr. Et donc, je dois dire qu'au sein du groupe employeur, franchement, nous trouvons vraiment nos positions facilement. Je ne plaiderai jamais en faveur de plus de législation pour tous les pays qui ne sont pas à mon niveau. Chaque État doit avancer à son rythme. On n'a pas tous le même point de départ, on n'a pas tous la même situation économique, la même situation sociale. Chacun avance à son rythme. C'est la même chose un peu au niveau européen. Et effectivement, on va vers plus de convergence. On avance tous vers une plus grande convergence sociale.
Je m'appelle Ben Guerrieri.
Je m'appelle Pedro Echeverri de la Chambre de commerce argentine.
Quels sont les défis de l'Organisation internationale du travail pour l'avenir? Il y en a tant.
Oui, il y en a tant. La technologie et le changement climatique pour toutes les productions en plein air, l'agriculture, l'élevage.
Pour moi, c'est le travail de demain, le travail des jeunes, le travail des nouvelles générations. Le problème, c'est que l'innovation technologique va si vite qu'il est difficile de transmettre notre expérience. Notre génération n'a plus rien à transmettre. Et les jeunes vont se retrouver seuls face à ce développement technologique et ces innovations permanentes qui vont à une vitesse vertigineuse. Ils vont devoir avancer seuls.
Je pense qu'on peut agir par l'éducation, la formation et le renforcement des capacités des employeurs.
Moi, je pense qu'en ce 100e anniversaire, on a besoin d'un changement de l'OIT elle-même. J'en suis persuadé. Les directions à prendre sont nouvelles. Or, l'OIT répond au problème d'une génération qui va disparaître. Il faut passer la main à la nouvelle génération. Et pour le moment, elle n'est même pas écoutée.
La déclaration du centenaire de l'OIT a fait consensus. On y affirme, et tout le monde était d'accord, profondes sont les transformations du travail. Essentielle toujours est l'OIT pour la justice sociale, centrée sur l'humain et son approche de l'avenir du travail. Comme le décrivait Albert Thomas, le rôle de l'OIT reste modeste, quotidien et limité, ce qui est déjà immense. Sandrine Cotte, historienne.
Moi, je continue de penser que la protection des travailleurs à travers les normes internationales du travail, ça reste une normativité dont les travailleurs peuvent se saisir. Je donne un exemple. Les travailleurs du secteur informel indien, donc a priori très 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 loin de toutes ces normes internationales, puisqu'ils sont du secteur informel, ils ne sont pas représentés, etc., etc. Néanmoins, ils se sont organisés et ils ont dit, nous, on veut un système de sécurité sociale. Et qu'est-ce qu'ils sont allés regarder? Bah, la norme 102, la convention 102 de l'Organisation internationale du travail, qui est donc cette convention sur la sécurité sociale, ils ont dit, nous, on veut quelque chose d'un peu approchant. Et le gouvernement indien, finalement, en 2008, leur a donné quelque chose très inspiré par la convention 102. Donc, la question, c'est, il faut qu'il y ait des groupes sociaux qui soient capables d'approprier, en fait, cette normativité. Les normes internationales du travail ne peuvent pas vivre s'il n'y a pas des groupes sociaux qui peuvent s'approprier ces normes et disent à leur gouvernement, voilà, nous, c'est ça, c'est ce type de choses-là qu'on veut.
Donc la mondialisation sociale, elle est possible, mais petit bout par petit bout, petit endroit par petit endroit.
Oui, moi je pense qu'il faut être pragmatique. On ne va pas faire la grande révolution mondiale, non. Ça ne va pas marcher comme ça.
Parfois, l'Organisation internationale du travail est accusée d'être social-libérale,
Elle est social-libérale, elle est ça, c'est ce qu'elle est, fondamentalement. Mais il vaut mieux être social-libérale que pour la dérégulation totale. Mais c'est ce qu'elle est, l'organisation. Mais ce n'est pas forcément une insulte. Après, dans le monde dans lequel on est, qu'est-ce qu'on fait? Moi, bien sûr, j'aimerais bien que ce soit plus.
Mais plus quoi?
Plus d'ouverture sur comment on peut organiser le travail autrement, qu'est-ce que c'est que le travail, comment on peut redonner du sens au travail, etc. Bien sûr, c'est ça qu'on souhaiterait. Mais c'est vrai que ce n'est pas ce que fait l'organisation actuellement. Et elle ne l'a jamais fait.
L'OIT, 100 ans et maintenant, un reportage de Marie Viennot avec Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Invité de grand reportage, Cyril Combe, directeur du BIT en France, et Marieke Louis, spécialiste des organisations internationales et du syndicalisme. Alors une première question pour vous, Cyril Combe. Je reviens à l'actualité du jour. La Conférence internationale du travail se conclut aujourd'hui sur l'adoption d'une convention sur le harcèlement et les violences au travail. Il y a également cette déclaration du centenaire sur l'avenir du travail face aux nouveaux défis. Est-ce que cette session 2019 était un bon cru à vos yeux ?
C'est en tout cas un cru qui restera dans l'histoire, parce que précisément c'est le centenaire de l'organisation dont votre reportage vient de parler. C'est non seulement le centenaire de l'OIT, mais c'est aussi l'anniversaire de l'organisation du système multilatéral la plus ancienne. Donc malgré toutes les limites et les insuffisances de cette organisation et de son héritage, cette longévité montre qu'elle remplit quand même forcément quelque part un besoin et elle répond à une nécessité. Donc je crois qu'effectivement ces deux résultats de la conférence qui est en train de s'achever à l'heure où on parle, ces deux résultats sont vraiment à noter. La déclaration du centenaire, il y avait plusieurs enjeux. Il y avait d'abord un enjeu proprement politique qui consistait quand même à rappeler la validité de ce mandat défini en 1919 en faveur de la justice sociale et du travail décent. À l'époque, en 1919, le monde, c'était 42 États, donc partis à l'OIT. Aujourd'hui, c'est 187, multiplié par 3, puisque comme vous l'avez bien dit dans le reportage, c'est une organisation tripartite, donc ça fait beaucoup de monde. Le fait, en 2019, de rappeler la valeur et la validité d'une organisation internationale qui a comme mandat de poursuivre comme objectif principal la justice sociale dans le monde, je pense que c'est, en tant que tel, un élément qu'il faut souligner. Ensuite, il ne s'agissait pas seulement de commémorer un anniversaire, il s'agissait aussi de montrer le caractère utile et opérationnel, je dirais, de cette organisation, notamment dans ce que Sandrine Cotte a souligné à la fin du reportage, le fait que cette organisation, elle n'est là finalement que pour renforcer les capacités de faire de ses membres, parce que la capacité de délivrer de cette organisation, elle s'opère surtout au niveau national. Et là, la façon dont cette déclaration fixe un certain nombre de priorités pour renforcer les capacités et équiper les femmes et les hommes au travail dans les différentes transformations du travail qui sont à l'œuvre est aussi un élément important. On pourra revenir dessus, le numérique, le vieillissement démographique ou encore la transition écologique. Et puis un dernier point sur la cohérence, puisqu'il en a beaucoup été question dans le reportage, il y a aussi un élément très important dans la résolution qui accompagne la déclaration du centenaire, qui donne un mandat pour l'OIT pour faire des propositions justement pour renforcer cette cohérence et la diffusion des normes internationales du travail dans le système multilatéral.
Marieke Louis, vous, qu'est-ce que vous avez retenu de ce qui a été dit aujourd'hui à l'OIT ?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, cette déclaration, elle articule vraiment les trois temporalités de l'organisation, c'est-à-dire l'histoire, on va revenir sur l'importance des conditions de travail, du salaire, de la limitation du temps de travail, du dialogue social, évidemment. Une temporalité plus, ensuite, années 90-2000, puisqu'il est beaucoup question, effectivement, du travail décent, de cette fameuse cohérence du système multilatéral qui est un thème qui agite depuis justement ce fameux débat sur la clause sociale dont il est question dans le reportage. Comment on fait pour que ce qui est décidé à l'OIT ne soit pas remis en cause ou sapé dans d'autres forums comme l'OMC, comme le FMI, comme la Banque mondiale?
Et ça, il y a des points qui font avancer sur cette question dans la déclaration.
Justement, alors c'était mon point un peu plus là d'analyse, c'est que en fait cette déclaration, et c'est la troisième temporalité qui effectivement adresse là pour la première fois de manière très nette le changement climatique, l'environnement, l'immigration, le numérique, mais elle n'aborde pas du tout les manières d'agir. Comment est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire que sur les enjeux de cohérence, en fait, on ne fait que prendre acte de la nécessité qu'il y aurait à davantage lier les mandats, plus qu'on indique comment faire. Mais c'est aussi parce qu'il faut penser que c'est un débat qui a complètement divisé l'organisation, pas que l'Organisation internationale du travail, l'OMC et les autres, dès qu'il s'est agi d'envisager des mécanismes concrets. Et là, la seule chose que les organisations comme l'OMC ou l'OIT arrivent à faire à ce jour, c'est déjà de faire des rapports ensemble, des rapports de recherche, de coopérer pour s'accorder sur au moins un diagnostic de la situation. Mais on est très loin d'avoir un accord sur la manière d'agir. Et aussi, peut-être faut-il le signaler, pas uniquement parce que les employeurs feraient pression, mais aussi parce qu'au niveau du syndicalisme, très souvent, les clauses sociales ont été accusées aussi d'être des formes de protectionnisme des États du Nord qui empêchaient aussi du coup aux pays en développement de se développer, notamment dans les secteurs où il y a beaucoup de travail est lié à ce développement du commerce international.
Cyril Combe, vous avez entendu le discours d'Emmanuel Macron il y a 10 jours, qui a parlé des dérives du capitalisme et qui est allé jusqu'à évoquer un risque de guerre. Est-ce que les inquiétudes qu'il a relayées sont représentatives d'un climat réellement préoccupant ?
En tout cas, ces propos, je crois, sont une illustration contemporaine du mandat de l'Organisation internationale du travail. Je rappellerai que les premiers mots de la constitution de l'OIT, c'est de dire qu'il n'y a pas de paix durable sans justice sociale. Donc aujourd'hui, ça nous renvoie effectivement à la question de l'accroissement des inégalités dans des proportions qu'on a rarement connues dans l'histoire, en tout cas récente. Et je pense que c'est dans ce contexte-là que le président Macron a tenu ses propos et qu'il a lancé un appel vibrant à renforcer la cohérence du système international. Mais moi, j'ai compris ce discours comme étant un appel non seulement à une cohérence au sein du système multilatéral entre les organisations, y compris l'OIT, mais aussi comme un appel aux membres de ces organisations. Parce que je rappelle quand même que, en tout cas du côté des gouvernements, les membres des organisations internationales, que ce soit l'OMC, que ce sont les mêmes, ce sont les États. Et par conséquent, lorsque le président Macron a terminé son discours en soulignant qu'il tiendrait le même discours dans les institutions financières de Bretton Woods ou à l'OMC, c'est vraiment dans cette perspective-là, je pense qu'il faut aussi prendre la question de la cohérence.
Alors, à propos des autres institutions, Marie-Claude, l'OIT est en retrait par rapport aux autres institutions internationales. Est-ce qu'il y a tout de même un dialogue entre l'OIT, le FMI, la Banque mondiale? Comment est-ce qu'ils arrivent à communiquer? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des injonctions contradictoires.
Oui, Emmanuel Macron a parlé de tuyaux d'orgue.
Alors, clairement, depuis la fin des années 90, l'OIT s'est vraiment lancée dans une entreprise de désenclavement. C'est-à-dire que vraiment, elle essaye d'être présente dans tous les forums, que ce soit au niveau de l'ONU, où le travail décent a été érigé au rang des objectifs du millénaire pour le développement, maintenant les objectifs du développement durable, qui ont été évoqués, mais aussi d'instaurer un dialogue plus consistant avec le FMI, notamment autour d'un dialogue de la question de la protection sociale, pour que la protection sociale et les socles de protection sociale soient un objectif commun du FMI et de l'OIT. Donc ça, c'était un dialogue assez inédit. Mais je dirais que là où elle a essayé de faire la plus grande contribution, c'est au niveau du G7 et du G20. Notamment parce que depuis la crise économique, qui de ce point de vue-là a constitué une malheureuse opportunité pour l'OIT de rappeler qu'il n'y avait pas de véritable reprise sans une prise en compte du progrès social, eh bien, elle est invitée systématiquement au sommet du G20 et on lui demande une expertise qu'elle fait conjointement avec les autres organisations économiques et financières.
Une question de Marie Viano.
Oui, je voulais qu'on rentre un petit peu dans ces discussions et des consensus qu'on arrive à trouver en partant justement de ce que l'OIT dit à propos des multinationales. Donc les multinationales, c'est pas du tout un sujet nouveau pour l'Organisation internationale du travail. Il y a donc cette déclaration qui date de 1976 et dans cette déclaration, il n'y a quasiment que des conditionnels. Je lis, les entreprises multinationales devraient tenir pleinement compte des objectifs de politique générale que se sont fixés les pays où elles opèrent. Leurs activités devraient être conforme à la législation nationale. Alors pourquoi mettre un conditionnel pour dire qu'on doit respecter les lois? Est-ce que finalement ce serait pas mieux de ne rien dire? Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient ce conditionnel? Il fait l'objet de quel arbitrage?
Cyril Combe.
Si vous voulez, si on se place d'un point de vue normatif, les entreprises, elles appliquent les règles applicables dans les pays où elles opèrent. C'est finalement ça ce que rappelle cette déclaration. Pourquoi elle utilise le conditionnel? Parce qu'en fait, la question, et c'est la question d'ailleurs que pose parfaitement Alain Supiot dans le reportage, c'est de dire comment faire en sorte que les entreprises qui aujourd'hui sont des acteurs moteurs dans la mondialisation de l'économie, parce que nous vivons dans une mondialisation infiniment plus complexe que celle que connaissaient les fondateurs de l'OIT. À l'époque, la mondialisation, c'était quoi? C'était des États qui commerçaient entre eux des produits et des biens qui étaient fabriqués sur leur territoire. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. 80% du commerce, c'est des échanges de consommation intermédiaire qui s'agrègent dans des réseaux de production qui s'étendent dans le monde entier. Donc comment faire en sorte que, au niveau global, il puisse y avoir un rapport plus direct, finalement, entre l'ordre international et ses entreprises? On a avancé. on a avancé. Je veux dire, c'est pas parce qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de tribunal international que rien n'est fait. La question de la responsabilité des entreprises multinationales, elle a été posée à travers le texte auquel vous faites référence. Elle a été aussi posée au niveau des Nations Unies par l'adoption en 2010 des principes directeurs des Nations Unies et des entreprises multinationales. Donc, on a posé la question de la responsabilité sociale des entreprises à l'échelle internationale. Après, la question, c'est de savoir comment concrètement on la met en œuvre. Et là, encore, une organisation comme l'OIT ne peut pas délivrer plus ou différemment que ce que ses instruments ou sa constitution lui permet de faire. Et ce que l'on fait depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est de trouver de nouvelles modalités, en fait, hein, de travail très concrètement entre l'OIT et les entreprises multinationales pour développer des coopérations, des partenariats. Les entreprises s'engageant elles-mêmes dans des démarches soit d'application volontaire d'un certain nombre de normes, soit elles s'engagent dans des démarches contractuelles avec les fédérations syndicales internationales qui très souvent s'appuient sur les normes internationales de l'OIT, mais de façon volontaire.
Marie-Claude, vous avez écrit avec Christian Chavagneux un livre sur le pouvoir des multinationales. Quelles sont pour vous les bonnes préconisations ?
Alors, je pense que cette déclaration, elle illustre en fait tous les défis et les dilemmes en fait du dialogue social. C'est-à-dire que d'un côté, on célèbre l'OIT parce qu'elle intègre les travailleurs, les gouvernements et les employeurs, ce qui n'est pas le cas dans d'autres organisations internationales. Et en même temps, parfois, on s'étonne de manière un peu naïve du coup que les résultats soient des compromis. Mais cette déclaration, elle est le résultat de ce compromis. Pourquoi est-ce que... Vous posiez la question du conditionnel. Eh bien, est-ce qu'on a autant de conditionnels? C'est parce que quand on négocie avec des employeurs, on ne peut pas s'attendre à ce que les préconisations qui soient faites,
Mais pourquoi il faut un conditionnel pour dire qu'on doit respecter la loi? À qui on dirait tu devrais respecter la loi?
Parce que dans le schéma onusien, et l'OIT en est tributaire, ce sont d'abord les États qui sont tenus de faire ces lois et de garantir le respect des lois sur leur territoire national. Je pense que c'est ça qu'on a souvent du mal à percevoir dans ce débat sur les multinationales, c'est que toute multinationale qu'elle soit, elle reste ancrée dans des États, et tant que tout le système juridique, et l'OIT reproduit ce système, est axé sur des formes de législation nationale, eh bien on ne peut pas demander, enfin, juridiquement parlant, à des entreprises de se conformer à autre chose que ce cadre. Donc du coup, le renforcement, il passe d'abord par le renforcement par les États de leur législation, et ensuite on pourra arriver à ce que l'OIT appelle de ses vœux en termes de plus de convergence.
Marie Vino.
Oui, est-ce que à l'OIT, il y a un lobby des multinationales? Est-ce qu'elles sont présentes?
Alors, elles sont pas présentes sous forme de lobby, tout simplement parce que les intérêts des multinationales ne sont pas tous convergents, mais de fait, elles sont présentes par l'intermédiaire des organisations patronales, sauf que il y a des organisations patronales comme l'organisation patronale américaine qui représente beaucoup de multinationales, et puis il y a des organisations patronales qui représentent classiquement davantage les PME. Et d'ailleurs, quand on lit la déclaration du centenaire, on parle pas des multinationales. Celles qui sont au centre de la régulation, ce sont les petites et moyennes entreprises, principalement.
Alors, Cyril, comme vous évoquiez tout à l'heure l'idée de tribunal qui a été avancée par Alain Supiot, qu'est-ce que vous en pensez? Ça aurait du sens?
Le tribunal, comme l'a dit Alain Supiot, c'est une hypothèse, une possibilité qui est ouverte par la constitution de l'OIT. Le fameux tribunal prévu par l'article 37, alinéa 2. Mais jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu de consensus, ou même pas de majorité au niveau des membres pour le mettre en œuvre.
Et même pas pour le proposer à la discussion.
Si, le sujet a été discuté. Il a notamment été discuté au début des années 2010, lorsque des controverses brûlantes opposaient les travailleurs et les employeurs sur l'interprétation qu'il fallait tirer des conventions fondamentales en matière de liberté syndicale concernant l'exercice du droit de grève.
Puisque donc, en fait, c'est un sujet fermé, quoi, parce que pour le centenaire, on aurait pu le remettre.
C'est pas un sujet fermé, parce qu'encore une fois, c'est un sujet qui est dans la constitution de l'OIT. Donc c'est une hypothèse qui reste ouverte, mais qui n'a pas pu se concrétiser, encore une fois, faute d'accord de nos mandants.
Mais alors, concernant ce pouvoir de l'OIT, on voit qu'il y a 187 pays membres, mais que quand on les convoque pour les interpeller sur ce qu'ils ne font pas, ils prennent même pas, enfin pas toujours, mais la peine de venir répondre. Pourquoi est-ce qu'ils ont adhéré alors ces pays-là?
Alors, bon, en général, quand même, ils viennent.
Moi, j'ai assisté à un matin, il y a la moitié qui ne sont pas venus, qui n'étaient même pas présents, et notamment Malte, je le dis dans le reportage, qui est un pays de l'Union européenne.
Oui. Enfin, bon, écoutez, en général, les 25 pays qui sont examinés par...
Oui, les 25.
Oui, effectivement, il y a deux choses. Il y a les 25 cas qui sont examinés concrètement par la commission d'application des normes, et puis vous avez le rapport d'experts qui couvre l'ensemble des 187 pays. Donc, il est possible, effectivement, qu'à un moment donné, on relève le cas d'un pays qui n'est pas représenté dans la salle. Mais ce que je voudrais dire, tout simplement, c'est que... il ne faut pas réduire la question de l'influence de l'OIT, notamment sur le terrain normatif, au fait qu'il n'existe pas aujourd'hui de tribunal international en son sein. Je veux dire qu'au niveau international, les leviers de l'influence d'une organisation internationale, ils passent par un certain nombre de canaux. Et en l'occurrence, à l'OIT, ils passent aussi par la réputation des États. Moi, je peux rappeler, par exemple, le contentieux qui a eu lieu à propos du Qatar, à partir d'une plainte déposée par la CSI concernant les conditions de travail de la main-d'œuvre immigrée dans ce pays. La transparence des débats, le fait pour le Qatar de devoir se justifier devant ses pairs et devant les partenaires sociaux au niveau mondial... ce pays ayant aussi le souci d'améliorer son image au plan international et dans la stratégie après pétrole aussi de pouvoir miser sur l'accueil de grands événements, y compris sportifs, a fait en sorte que ce pays finalement a dû récemment modifier sa législation. Donc ça veut bien dire que les leviers de l'influence au niveau international, on peut pas, ce sont pas les mêmes que ceux au niveau national. C'est pas parce qu'il n'y a pas de police d'inspection du travail ou de juge international que c'est inefficace.
Et le name and shame, ça peut fonctionner. Merci Cyril Combe, merci Marie-Louis. L'OIT 100 ans et maintenant. Le grand reportage de cette semaine était signé Marie Viennot, réalisation Annie Bro avec Clément Daté à la technique. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr avec un entretien sur le site avec le juriste Alain Supiot que l'on a entendu dans le reportage.